La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La pensée de Roland Barthes, elle n'est pas évidente à classer, et cela aussi d'ailleurs lui donne de l'intérêt. Qu'on puisse l'appeler sémiologue et critique littéraire ne fait pas de doute, mais il est peut-être aussi philosophe quand il réfléchit à partir des objets du quotidien ou de la structure d'un texte, d'une manière qui dissipe et éclaircit presque comme en passant de nombreux brouillards de l'existence. Le mot qui le définit le mieux est sans doute celui d'écrivain, car la littérature, et il n'a cessé de le montrer, est un autre moyen de la compréhension du monde. Demain, Éric Marty, qui a publié les œuvres complètes de Barthes au Seuil, aura la lourde tâche de nous présenter les périodes principales de son travail et d'évoquer ses textes les plus importants. Mercredi, avec Carlo Ossola du Collège de France et Mathieu Messager de l'Université de Nantes, nous parlerons d'un Barthes critique littéraire avec notamment les notions de plaisir et de jouissance que procure la littérature et qu'il a théorisé. Enfin, jeudi, nous évoquerons un Roland Barthes mélomane et même compositeur de musique. Notre invité sera Claude Coste, qui a co-dirigé un ouvrage sur le sujet, c'était avec Sylvie Douche, et c'est paru aux presses universitaires de Rennes. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Roland Barthes, nous sommes en votre compagnie, Tiffaine Samoyau. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
Vous avez publié en 2015 une biographie de Roland Barthes aux éditions du Seuil. C'était 35 ans après sa mort. Il nous a quittés le 26 mars 1980. C'était déjà la troisième biographie après celle de Louis-Jean Calvet et de Marie-Gilles, toutes deux aux éditions Flammarion, biographie auxquelles il faudrait ajouter les nombreux témoignages de ceux qui l'ont connu, Patrick Moriès, Éric Marty, Anne Todorov, Antoine Compagnon, Gérard Genette, Colette Felouz, Suzanne Sontag, sans oublier le fait aussi qu'après sa mort, Barthes est devenu un personnage de plusieurs romans, dans les romans de Solers, de Julia Kristeva, de Thomas Clerc ou encore de Philippe Roger, qui dès 1986 avait précisément intitulé son livre Roland Barthes roman, même si ce n'est pas évidemment exactement un livre de fiction. Alors la personne de Barthes, elle semble passionner beaucoup de monde, et pourtant on ne peut pas dire, Tiffaine Samoyau, que sa vie ça a été véritablement un roman d'aventure, loin de là.
Oui, c'est vrai que Barthes a cette propension à être devenu légendaire au moment même de sa mort, et même peut-être un peu avant. C'était quelqu'un d'extrêmement célèbre et d'extrêmement attirant. Il avait une aura particulière qui a fixé finalement un certain nombre d'images chez ceux qui l'ont connu, mais aussi chez ceux qui ne l'ont pas connu.
Mais c'est quand même ses textes qui lui donnent cette aura, parce que le personnage lui-même, même s'il a une belle voix très chaleureuse, vous en parlez d'ailleurs dans votre biographie, n'est pas a priori le prototype de la star.
Alors, il n'est pas le prototype de la star, mais il y a un certain nombre d'aspects par lesquels il arrive à rendre quelque chose d'absolument aventureux, qui est l'aventure de la pensée et l'aventure de l'écriture. Et au fond, moi, lorsque j'ai commencé à écrire la biographie, je me suis dit, en effet, que c'est pas écrire la biographie d'Henri de Montfred ou d'un aventurier au sens strict, mais je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose de l'ordre de l'aventure. Et qu'il a réussi sans doute à la fois à vivre, à incarner et à diffuser.
Alors il avait commencé lui-même à raconter sa vie dans Roland Barthes par Roland Barthes, qui date de 1975. Et de manière plus générale, un peu partout dans ses œuvres, il y a ce qu'il appelait donc des biographèmes, ce sont des signes de vie.
Oui, il a dispersé énormément d'éclats de son existence dans ses œuvres. Il avait la conviction aussi qu'on ne peut penser... Alors c'est une conviction qui est héritée de Nietzsche, mais qu'on ne pouvait penser qu'à partir de soi, qu'en engageant son être entièrement, mais en disposant ces éclats d'existence, en les travaillant aussi, en les composant, il a aussi inscrit des formes de légende. Et d'ailleurs son rapport à la photographie, c'est aussi un rapport à la légende de la photographie. On le voit dans Roland Barthes par Roland Barthes, il met des photos de famille, mais il les légende très soigneusement, de manière à orienter la lecture que nous avons de ces photographies.
Alors ça lui a peut-être causé des soucis, cette façon de partir de soi, finalement, pour théoriser. On lui a peut-être dit qu'il était narcissique, par exemple. C'est vrai que c'est pas facile de parler de soi, d'évoquer comme ça en filigrane parfois sa vie, même sa vie sentimentale et sexuelle.
Sans doute, ça a pu lui être reproché. Ça lui a été reproché par certains des auditeurs au Collège de France, notamment. Il a pu avoir la réputation d'un philosophe ou d'un auteur non sérieux. Parce que avant sa mort, il n'était pas véritablement considéré comme un écrivain. Même si lui se vivait incontestablement comme un écrivain, il n'est pas sûr que l'opinion le considérait comme un écrivain. On le pensait plutôt comme un penseur.
Parce qu'il n'y a pas de fiction dans son œuvre.
Comme un critique, il n'y a pas beaucoup de fiction. Il y a des tas de traces de fiction, il y a des tas d'éléments de fiction. On pourrait y revenir et vous y reviendrez peut-être au cours de la semaine. Mais il n'y a pas de roman, il n'y a pas de recueil de poèmes, il n'y a pas de pièces de théâtre, il n'y a aucun, d'ailleurs il n'y a pas non plus d'essais philosophiques, il n'y a rien qui corresponde aux gens institués. C'est quelqu'un qui a eu toute sa vie un rapport très distant à la fois à l'autorité et à l'institution, et même à l'institution des genres littéraires. Donc c'est quelqu'un, si on veut raconter sa vie, il faut raconter comment il se met en marge de tout cela.
Il y a eu toujours cette question qu'on lui a posée, et notamment quand il travaillait pour le Collège de France, à ce cours de la préparation au roman. Allez-vous écrire un roman? Êtes-vous en train d'écrire un roman? Finalement, y a-t-il chez lui une impossibilité d'écrire de la fiction, ou simplement, est-ce que c'était contraire à sa manière de voir la littérature?
En tout cas, le roman tel qu'on peut le concevoir, le grand roman du 19e siècle qu'il adorait lire par ailleurs, n'était sans doute pas son horizon. Il se rendait compte que ça n'était peut-être pas la forme du temps dans lequel il vivait, mais toute sa vie a été hantée par le roman. Toute sa vie a été une préparation du roman. Et d'une certaine manière, c'est son existence aussi dont il a fait un roman. Et c'est peut-être ça le caractère à la fois aventureux et immédiatement légendaire qu'il a constitué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à penser l'œuvre de Barthes sans penser son auteur. Mmh. Et alors qu'il était évidemment contre cette manière de voir la littérature qui est de l'associer classiquement l'œuvre à l'auteur, il a fait d'une certaine manière l'inverse. C'est-à-dire qu'il a écrit sa vie avec son œuvre et inversement. En tout cas, il les a rendus absolument fondu.
Alors je ne sais pas si c'est un biographème de commencer comme vous le faites la biographie de Barthes par le récit de sa mort, par d'abord son accident le 26 février 1980. Il est renversé par une camionnette en sortant, ou en entrant plutôt même, au Collège de France. Mais ça n'est pas ça, nous dites-vous, qui provoque sa mort, ou en tous les cas pas directement. De quoi est mort selon vous Roland Barthes?
Disons qu'il est mort un mois après à l'hôpital, sans doute d'une infection attrapée à l'hôpital, hein, d'une infection nosocomiale comme on les appelle.
Ça c'est la cause physique, mais peut-être qu'il y avait autre chose.
Alors,
aussi.
Il y a toute une série de légendes qui dit qu'il était très dépressif à la suite de la mort de sa mère. Il l'a été. Moi, dans ma biographie, je ne soutiens pas cette légende du fait qu'il s'est laissé mourir par le chagrin. Je pense qu'il était à un point de sa vie où il avait un certain nombre de projets. Et que cette mort est en effet une mort physique et accidentelle.
Donc vous ne pensez pas qu'il était fatigué de vivre, même non. S'il y a chez Roland Barthes quand même une mélancolie.
Il y a une très forte mélancolie. Il a le plus grand chagrin de sa vie, ça a été effectivement la mort de sa mère. Mais beaucoup de ses amis, hein, beaucoup des témoins de sa mort ont interprété comme ça le fait que après cet accident, qui n'était pas forcément un accident mortel, son état se soit dégradé. Je les laisse évidemment libres de leur interprétation, mais après avoir traversé un certain nombre de textes personnels des derniers mois de la vie de Barthes, ça n'est pas mon opinion. Je pense qu'il est mort de cet accident.
En tout cas, la mort en littérature passionnait Barthes, et surtout les personnages, les narrateurs qui disaient « je meurs ou je suis mort ».
Oui, absolument.
Alors, le grand fichier, il faut en dire un mot, parce que vous l'avez consulté, puis c'est important dans la vie de Barthes. Qu'est-ce que c'était que ce grand fichier, Tiphaine Samoyeau?
Eh bien, Barthes, à partir d'un moment, et même très très tôt, hein, ça commence au sanatorium, mais Alors d'abord, sa pratique est celle de classique d'un étudiant de ces années-là qui met en fiche ses lectures, qui met en fiche ses bibliographies. Et puis progressivement, l'usage de ce fichier s'étend chez Barthes, hein, et d'une certaine manière, il ne met plus simplement ses lectures en fiche, mais sa vie en fiche. Et toutes les notations qu'il peut attraper en se promenant dans la rue, en conversant avec un ami, en rencontrant quelqu'un, en attrapant un éclat de vie, eh bien il le met en fiche.
Est-ce que ce n'est pas ce qu'on faisait avant dans un journal ?
Si, mais c'est un journal éclaté, hein, et c'est cette propension qu'il a aussi à disperser son être, sa vie, dans des formes éclatées et non autoritaires, hein, dont finalement il s'interroge toute sa vie sur comment les redisposer, quelle composition, quelle forme trouver pour réinventer la forme, réinventer la pensée, réinventer le savoir.
Donc mettre en fiche, c'est déjà aller contre la narration que représente le journal.
Oui, c'est aller aussi contre l'ordre des jours, contre des logiques qu'on impose de l'extérieur. Hein,
oui. Mon enfance a été marquée par la vie que j'ai eue dans le sud-ouest jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est-à-dire à Bayonne. J'ai vécu à Bayonne. Mes grands-parents étaient originaires de la région de Toulouse, d'un village qui s'appelait à ce moment-là Saint-Félix-Caraban et qui maintenant s'appelle Saint-Félix-de-Lauragais, qui n'est pas loin de Toulouse, où je suis d'ailleurs allé pour la première fois il n'y a pas très longtemps, où ils étaient notaires de père en fils depuis très longtemps. Le sud-ouest, j'ai passé mon enfance, j'y vais de nouveau à chaque vacances, toute ma vie, j'ai fait ce voyage-là. Je connais le trajet de Paris à Bayonne, soit par train, soit par auto, je le connais véritablement par cœur. Et évidemment, j'ai au sud-ouest un attachement très, très corporel, mais en même temps très ambigu. C'est un climat assez pluvieux, il faut bien le dire, enfin assez humide, très vert. Et donc, où à la fois on se sent très bien parce qu'on n'y a jamais trop chaud, mais où quelquefois on est un petit peu, on ressent une sorte d'oppression, et qui est là doublée dans mon cas par le fait que c'est tout le passé qui à ce moment-là pèse sur moi.
Roland Barthes interrogé par Bernard-Henri Lévy et Jean-Marie Benoît en 1971. Alors la famille de Roland Barthes, Tiphaine Samoyo, elle est donc originaire du Sud-Ouest, mais ce n'est pas dans cette région qu'il est né le 12 novembre 1915, mais bien à Cherbourg, et cela en plein milieu de la Première Guerre mondiale, Tiphaine Samoyo.
Oui, alors Cherbourg, c'est en effet, ça ne fait pas partie de l'imaginaire de Barthes, comme il dit lui-même, je n'y ai jamais mis littéralement les pieds puisque je l'ai quitté à 2 mois, et donc effectivement il y est né, mais il n'y a jamais marché. Donc son vrai pays, c'est le Sud-Ouest, qui est la terre de sa famille paternelle. Et c'est intéressant parce qu'il a passé en effet cette enfance dans le Sud-Ouest, dans une famille paternelle dont le père était absent, puisqu'effectivement il meurt 11 mois après la naissance de son fils dans les combats de la Seconde Guerre mondiale.
Donc il y a une volonté de repaternaliser de la part de la mère de Barthes l'existence de son fils.
Alors c'est intéressant en effet qu'elle inscrive son fils et l'enfance de son fils dans sa famille paternelle après la mort de son mari. Ça s'explique aussi par le fait qu'elle avait des rapports assez distendus avec sa propre mère, elle-même venant d'une famille très différente, parce que si on veut caractériser la famille paternelle de Barthes, bon, c'est vraiment la bourgeoisie du Sud-Ouest, mais une bourgeoisie assez modeste, assez appauvrie, comme le dit Barthes lui-même. La famille maternelle est beaucoup plus fantasque et d'une bourgeoisie beaucoup plus élevée.
Qui reçoit, alors on dit que Valérie, par exemple,
oui, sa mère a tenu réguliers. Longtemps un salon et elle était très proche de Valérie. On peut même parler de liens presque amicaux avec Valérie. Donc elle tenait salon, elle habitait place du Panthéon. Elle était séparée de son mari, mais avec lequel elle avait vécu une très grande vie de coloniale dans les années 1890-1900, puisque son mari était Il a été un moment directeur des affaires d'Afrique du ministère des Affaires étrangères.
C'est une sorte ensuite, de héros, du coup, pour le petit Bart, ce grand-père.
Oui et non, c'est un être assez embarrassant pour lui. Alors sans doute, quand il était petit, c'était une sorte de héros, parce que quand il allait le voir dans sa maison de l'Isle-Adam, il était entouré de tous ses masques africains, ses peaux de bête, etc. C'était quelqu'un qui avait été aussi gouverneur de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a encore une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Bingerville, hein, du nom du grand-père de Bart, Binger. Donc sans doute quand il était enfant, mais ensuite c'est une figure assez embarrassante parce qu'avec les positions anticolonialistes que va prendre Bart, bon, la figure de son grand-père est assez encombrante.
Oui. Alors le père, on n'a pas dit quand même pourquoi il était mort et dans quelles circonstances.
Bah donc le père était officier de marine et donc il commandait un bateau, un chalutier qui était
transformé en navire de guerre
et puis il a été coulé par les Allemands
lors de sa première sortie en mer.
C'était sa première sortie en mer, oui. Mmh.
Vous dites que l'enfance de Roland Barthes était une enfance proustienne. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors c'est une enfance proustienne, en tout cas lorsqu'il en parle, il lui donne des couleurs proustiennes, c'est-à-dire qu'il la repense avec Proust, c'est-à-dire que il vivait donc au milieu d'un certain nombre de femmes, donc il y avait sa mère, sa grand-mère, les sœurs de son père qui vivaient là tout ensemble dans une maison de Bayonne, et tout était ritualisé, comme on le voit dans le premier tome de La Recherche du Temps Perdu, avec la tante Noémie et les petites habitudes, la façon dont on parle des gens du village. Voilà, il y a quelque chose d'une petite vie comme ça de province, un peu étriquée, fixée sur des noms, fixée sur des saveurs, fixée sur des rituels. Et donc en lisant Proust, Barthes retrouve sa propre enfance, il en retrouve jusqu'aux odeurs, jusqu'au goût, enfin toute la sensualité finalement assez modeste et assez étriquée, mais qui malgré tout marque un enfant.
Et jusqu'au rapport à la mère aussi, du narrateur de La Recherche avec sa propre mère, qui peut ressembler un petit peu à oui. La grande affection qu'il y a entre Barthes et sa mère.
Absolument, il faudrait ajouter que l'amour de Proust pour sa grand-mère, c'est-à-dire je pense que l'amour de Barthes pour sa mère réunit l'amour de Proust pour sa mère et pour sa grand-mère, et ce que le texte évidemment de La Recherche en dit.
Alors il a grandi donc près de la mer, les dimanches sont souvent passés à la plage, c'est donc une enfance heureuse et aussi une enfance où il dit s'être beaucoup ennuyé.
Oui, c'est une enfance heureuse, mais une enfance assez solitaire. Et donc, l'ennui va avec cette solitude, évidemment. Mais c'est un ennui productif. Hein. C'est un ennui dont il a toujours fait quelque chose. Il a construit son imaginaire. Il a sans doute aussi éprouvé très, très consciemment le lien qui l'unissait à toutes les personnes qui l'entouraient, en particulier sa mère. Bon, il a fait aussi beaucoup de piano, puisqu'une de ses tantes jouait du piano et lui a enseigné. Voilà, c'est une enfance, au fond, assez banale.
Il a construit une cabane aussi, où il aimait bien aller dans le jardin. Elle s'appelle le Gauchoquissime. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire qu'il l'a nommée comme ça. C'est le mélange d'un nom basque, hein. Gaucho, qui signifie un endroit agréable ou qui signifie joli, et puis Issime, qui est le suffixe latin qui dit le maximum de plaisir que suscitait pour lui le fait de se protéger dans un lieu clos, un lieu à lui, ou la chambre à soi peut-être.
Ouais. Alors cette chambre à soi, il va falloir la quitter pour Barthes à l'âge de 9 ans, puisque sa mère l'emmène vivre à Paris. On ne sait pas très bien d'ailleurs pour quelle raison.
Oui, sans doute qu'elle voulait s'émanciper de la tutelle de sa famille, de la famille de son mari, donc décédé depuis presque 10 ans. Et donc elle emmène son fils à Paris, donc son fils qui venait d'obtenir aussi le statut de pupille de la nation, ce qui lui permettait peut-être de s'autonomiser de cette famille et de vivre avec lui. Néanmoins, ça change quand même beaucoup sa vie, ce moment-là, parce que à Paris ils vont vivre quand même dans une assez grande pauvreté, et donc il va connaître, et ça c'est quelque chose de très particulier aussi de la vie de Barthes par rapport à celle d'un certain nombre d'autres écrivains ou intellectuels français, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment connu la pauvreté, la difficulté avec les fins de mois, etc. Ce qui va encore augmenter au moment de la naissance de son frère en 1927.
J'ai été entouré d'affection et que sur ce plan si important, j'ai été en quelque sorte comblé. Mais qu'en même temps, j'ai eu effectivement une enfance et une jeunesse difficiles. Ça n'est d'ailleurs pas du tout ni un privilège, ni une marque, ni une singularité. J'appartenais, comme vous le savez, disons, à ce qu'on appellerait une famille de la bourgeoisie, libérale.
Un père marin, officier de marine.
Oui, c'est ça. Mais une bourgeoisie pauvre, une bourgeoisie appauvrie.
Et c'était déjà pour vous le temps de la solitude, cette solitude sur laquelle vous êtes penché beaucoup, du moins sur le mot après.
Oui, c'est cela, parce qu'en réalité, quand j'étais enfant et adolescent, je n'avais pas de milieu, dans la mesure où j'étais rattaché uniquement à ma mère était mon foyer, et je n'avais pas de milieu social, voyez-vous, où le milieu social que je fréquentais, c'est quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, à Bayonne, qui est une ville de province. Mais j'allais pour ainsi dire en visite, hein. Ce n'était pas mon véritable milieu. Et donc, n'ayant pas de milieu social, je faisais l'expérience effectivement d'une certaine solitude. Mes amis, par exemple, les amis qu'on a toujours quand on est enfant ou adolescent, c'était uniquement des amis de lycée.
Entretien avec Jacques Chancel qui date de 1975. Qu'en retenez-vous, Tiffaine Samoyo ?
Bien oui, ce que je disais à l'instant, c'est que bon, c'est intéressant aussi déjà dans son vocabulaire de dire je n'ai pas de milieu. Effectivement, c'est quelqu'un qui se sent dans un écart par rapport à la question des classes ou des classes sociales ou des milieux sociaux, qui l'a été sans doute réellement parce que à ce moment-là, lorsqu'il arrive avec sa mère à Paris, puis après avec la naissance de son frère, bon, ils vivent dans une relative pauvreté. Elle doit faire des petits travaux et donc du coup elle le laisse aussi très autonome. De toute façon, c'est quelqu'un qui lui a toujours fait confiance et qui le laisse très autonome. Donc, il peut passer des journées entières à lire des illustrés ou à aller au cinéma tout seul, dès l'âge de 12 ans, hein, dès l'âge de 13 ans. Après, il fréquente le collège Montaigne, puis le lycée Louis-le-Grand, qui sont des endroits qui sont fréquentés aussi par des enfants de la bourgeoisie. Et il se fait des amis dans ces milieux de la bourgeoisie, très très vite. C'est pas quelque chose qui a été... Une raison de rejet de sa part par les autres. Il ne le vit pas comme ça.
Même s'il insiste toujours sur la solitude et le décalage par rapport aux autres de manière générale.
Il le construit, mais lorsqu'on lit sa correspondance adolescente, on voit qu'il a des liens très faciles et très aisés, très nombreux. Il prend des initiatives. Il a des initiatives très tôt, des initiatives de politique, de création de revues, de groupes de théâtre. Donc c'est quelqu'un qui peut-être insiste beaucoup sur sa solitude à ce moment-là, parce qu'il la ressent peut-être au moment où il parle, c'est-à-dire en 68-71, dans les entretiens qu'on a entendus. Mais je pense qu'il ne faudrait pas exagérer ce trait biographique. On voit qu'il s'insère très très bien dans les endroits qu'il fréquente. Alors, évidemment, il est marqué par un certain nombre de marginalités. Il y a celle de la pauvreté, qui en effet n'est pas du tout anodine et qui le marquera pour toute son existence. Mais aussi celle de la maladie qui l'isole, hein, parce que la maladie qui commence à manifester, la tuberculose qui commence à manifester des signes, qui n'est pas diagnostiquée tout de suite, mais qui commence à manifester des signes de fragilité physique, corporelle, respiratoire assez tôt, eh bien l'oblige à manquer l'école un certain nombre de fois et puis surtout à quitter l'école toute l'année de terminale. Donc voilà, il y a ce deuxième élément de marginalité qui fait que lorsqu'il relit toute son enfance et son adolescence, il insiste sur ces traits-là plus que sur d'autres.
La marginalité, elle est aussi dès cette époque politique parce qu'il remarque bien que dans sa classe et de manière générale, la jeunesse qui l'entoure est très très à droite. On est dans les années 30. Hitler arrive au pouvoir en 1933. Il y a l'affaire Stavisky aussi, quelques mois plus tard, en 1934. D'ailleurs, il va dire que les événements du 6 février 1934 vont être absolument fondateurs pour lui. En quel sens ?
Oui, c'est sûr que c'est une date majeure dans son parcours, dans sa formation, dans son itinéraire, puisque un certain nombre de ses camarades de Louis-le-Grand, donc à ce moment-là, le 6 février 34, il a 18 ans. Eh bien, un certain nombre de ses camarades sont tout à fait phalangistes, sont tout à fait d'extrême droite et vont à l'appel des organisations d'extrême droite défiler à la Concorde. Et lui, il se réunit avec les quelques camarades de gauche de sa classe et puis d'autres hein, pour fonder un groupe de défense antifasciste. Et là, c'est le commencement d'une conscience de gauche très profonde qui ne le quittera absolument jamais.
Ouais.
C'est quelqu'un qui est resté marxiste jusqu'au bout. C'est quelqu'un à qui on a pu reprocher d'avoir eu des engagements tièdes, mais qui au fond a manifesté sur ce chapitre une absence totale de versatilité.
Le modèle littéraire à l'époque, et peut-être même un petit peu plus tard quand il va rentrer, on va en parler au sanatorium, c'est André Gide, Tiphaine Samoyo. Il cumule, Gide, plusieurs caractéristiques.
Oui, c'est assez beau parce qu'à un moment il écrit pour justifier sa relation à Gide. Il dit il était protestant, il faisait du piano, il parlait du désir, il écrivait. Et d'une certaine manière, ces quatre traits qu'il confère à Gide sont des traits qu'il se reconnaît à lui-même.
Et donc Gide, par ses écrits, donne l'autorisation à Barthes, comme à beaucoup de jeunes gens de son époque, d'assumer l'amour des garçons, en l'occurrence, pour lui.
Certainement, ça a été déterminant pour lui. Ça a été déterminant pour un certain nombre de jeunes hommes de cette époque. On ferait affaire à un genre littéraire de la visite à Gide. Alors, ce qu'il n'a pas fait, il raconte l'avoir aperçu une fois au Select, mangeant une poire, pelant une poire, mais donc il n'a pas fait cette visite à Gide, mais en tout cas, il a fréquenté son œuvre et elle l'a en effet autorisé.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie amoureuse de Barthes? Parce qu'il ne cesse de parler d'amour dans toute son œuvre et on a l'impression que sa vie amoureuse est restée assez peu satisfaisante.
Disons que c'est une moi je pense que c'est une vie amoureuse qui a été très très intense, qui a été marquée par une très forte multiplicité, hein, c'est-à-dire que il assumait son désir et il a assumé sa dispersion, hein, donc c'est quand même quelqu'un qui draguait beaucoup, qui a eu beaucoup d'histoires, qui ne s'est jamais évidemment fixé ou très rarement, hein, il a fixé des passions bien sûr qui ont pu durer, dont certaines ont pu durer, mais il a vécu l'amour en dehors de toute institution, qui soit celle du couple, du mariage, de la famille, mais
et pour vous, c'était pas avant tout un domaine de souffrance.
Ça l'a été, mais comme pour tout le monde, il y a des périodes de joie, il y a des périodes de satisfaction, et il y a beaucoup de périodes aussi d'insatisfaction. C'est pas si évident d'assumer cette sexualité démultipliée. Qui a été complètement assumée dans les années 70 par un certain nombre de gens, mais où au moment où c'est arrivé cette libération ou cette émancipation à un moment où Barthes était arrivé aussi à un certain âge et se sentait moins désirable, donc ça a été assez douloureux pour lui certainement.
Si je devais chercher comment je projette le trait principal de mon caractère, je serais extrêmement embarrassé. Je pense que je le situerais plutôt du côté d'une grande angoisse, j'allais dire d'une grande exigence, mais je traduis tout de suite exigence par angoisse, de délicatesse, c'est-à-dire la peur de la blessure, la peur du retentissement, la soif du comblement, l'envie d'être comblé. Et bon, toute ma vie se développe entre ces deux pôles, qui sont d'ailleurs d'une très grande banalité.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors vous écrivez, Tiphaine Samoyo, que passé l'adolescence, la relation de Barthes avec l'extérieur va se faire sur le mode de la plainte et d'un long lamento. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Alors déjà, on vient de l'entendre. Il y a deux termes qui sont très très importants dans ce qu'on vient d'entendre, dans le document qu'on vient d'entendre. C'est le terme de délicatesse. La délicatesse, c'est ce qu'il hérite de sa mère et dont il essaye de faire un principe, non pas simplement d'existence, mais un principe de pensée, donc contre contre toute autorité ou toute posture théâtrale de surplomb, etc. Puis l'autre terme, c'est celui de comblement, d'insatisfaction forcément vive et inépuisable, qui est liée au fait comment est-ce qu'on pourra trouver un amour qui pourra être aussi grand, aussi déchirant, aussi profond que celui que la mère vous a porté. Donc c'est ce pôle de la peur ou de ce qu'il appelle l'angoisse, et puis celui du désir de délicatesse, c'est-à-dire de douceur, c'est-à-dire de respect éthique, hein, dont il fait aussi un principe, comme je le disais, philosophique. Alors le mode de la plainte, je dirais, il faut pas non plus le généraliser, mais la maladie qui le conduit quand même 5 ans en sanatorium, donc 5 ans d'une certaine manière isolé du monde, en tout cas isolé du monde tel que on le pratique habituellement, parce que le sanatorium c'est aussi un monde, hein, on pourra en dire quelques mots.
Oui, allons-y alors, justement, parce que c'est en plus un sanatorium qui n'est pas tellement en pointe et qui traite les patients un peu comme dans la montagne magique de
Thomas
Mann.
Oui, mais parce qu'on
a
toujours traité la tuberculose de la même façon, et au fond les traitements qu'il subit pendant les années de guerre, c'est-à-dire de 1941 à 1946 au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet, qui est un sanatorium très célèbre, sur lequel il y a eu beaucoup d'écrits.
C'est le sanatorium des étudiants.
Oui, beaucoup d'étudiants l'ont fréquenté pendant de nombreuses années. Puis le sanatorium de Lézin, en Suisse. Bon, sont quand même des mondes. On peut pas dire qu'il ait eu des années d'inactivité. Alors effectivement, il a des traitements parfois assez lourds, hein, qui l'obligent à être allongé parfois 18 heures par jour, la tête en bas. Donc on peut pas facilement lire ou travailler dans ces conditions. Mais il y avait des périodes avec des traitements plus légers, et il développe une véritable micro-société. Il se développe une véritable micro-société dans laquelle Barthes s'insère parfaitement. Hein. Il écrit dans le journal Existence du sanatorium, il suit des cours, il y a des cours qui sont organisés par l'université de Grenoble au sanatorium, tous les éditeurs envoient les livres, les revues, il y a la possibilité de faire de la musique, il y a un cinéma, puis surtout il y a une intense sociabilité amicale.
Oui, mais il y a profondément ce sentiment d'être en dehors des événements, et pendant quand même de très nombreuses années. Ça va vraiment retarder l'entrée de Barthes dans la vie, d'autant plus que c'est les années de guerre. Et donc, au moment où la France est occupée, où quand même l'histoire est tragique, lui, il est retiré dans les montagnes.
C'est ça. Il y a un côté repli, retrait, désinvestissement du monde. Donc, il y a aussi des traits qui sont tous faits pour composer la figure d'un mélancolique retiré des affaires du réel et des affaires du monde. Donc à la fois il faut insister sur ce que signifie cette petite société, parce qu'elle existe et il y vit, et puis le sentiment qu'il en retire d'être exclu finalement de ce que ses camarades restaient dans le monde réel. Donc c'est pour ça que c'est quand même un peu la montagne magique, parce qu'il y a ces deux mondes qui s'opposent, ce que ses camarades restés dans le monde réel font, parce qu'il a des camarades qui meurent pendant la drôle de guerre, il y en a qui s'engagent dans la résistance, il y en a qui commencent à écrire à ce moment-là, donc qui s'engagent aussi politiquement. Donc voilà, mais la mort, elle est un peu de tous les côtés, parce qu'elle est aussi dans le sanatorium. C'est-à-dire que le sanatorium, c'est aussi une expérience. C'est pas simplement, c'est romantique de dire que c'est une expérience du retrait. C'est une expérience qui est aussi extrêmement douloureuse. C'est pour ça que vous aviez raison de parler de plainte. C'est-à-dire que c'est une expérience de la mort prochaine. C'est-à-dire que on voit des camarades mourir, parce qu'il y avait encore beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes qui mouraient de la tuberculose. Et puis, on est soi-même confronté à l'imminence éventuelle de sa propre mort, ce qui n'est pas rien. Quand on a 20 ans.
Son retour à la vie. On va en parler avec vous, Tiphaine Samoyeau, dans quelques minutes, juste après la chronique.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique que nous propose aujourd'hui Baptiste Ligéret, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour Baptiste.
Bonjour Mathieu.
Je vais nous parler aujourd'hui des méchants en littérature.
Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai toujours une tendance à apprécier ces personnages qu'on représente comme des figures du mal à proprement parler. Voilà, depuis tout petit, dans les contes et dans les romans de mon adolescence et aujourd'hui, je les adore, ces personnages. Mais c'est une vraie question. Pourquoi, très souvent, ces personnages effrayants, ces sinistres crapules, nous marquent à ce point? Qu'est-ce qui fait que tel personnage, qui est une incarnation du mal, du côté obscur de la force, comme dirait le film bien célèbre, nous reste à ce point, on se pointe en tête. Alors moi, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. Il y a la marquise de Merteuil dans Les Liaisons Dangereuses, il y a Gripsou dans ça de Stephen King, il y a Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Mais voilà, ça nous pose cette question. Comment le mal est-il interprété par nous et incarné à travers un personnage? Qu'est-ce qu'il détermine? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'auteur à proprement parler? On pourrait poser de très nombreuses questions à ce sujet, et ça tombe plutôt bien parce que aujourd'hui vient de paraître en librairie le nouveau roman de Thomas Harris, Karimora, aux éditions Kaman Levy, qui pour le coup nous offre un très très grand méchant.
Donc ça, c'est l'écrivain auquel on doit, entre autres, Le silence des agneaux.
Oui, c'est le papa du psychiatre cannibale Hannibal Lecter, bien connu et immortalisé au cinéma par Anthony Hopkins, même si d'autres acteurs l'ont campé. Il a aujourd'hui près de 80 ans. On lui doit donc Le silence des agneaux, Dragon rouge, Hannibal. Et voilà, force est de constater que Hannibal, ce psychiatre cannibale, voilà, avec de nombreux méfaits, nous a marqués. Pour quelle raison? Justement par son élégance très particulière, par son sens du savoir-vivre, par son cynisme. Et je crois le contraste entre cette finesse absolue, ce côté très délicat, et sa sauvagerie pure et dure. Et ça, je dois dire, c'est absolument bouleversant, au sens propre, par rapport aux émotions qui nous sont transmises. Il y a d'autres raisons. On lui met toujours un personnage représentant le bien, plutôt assez réussi, assez soigné, comme Clarice Starling, qui était campée au cinéma par Jodie Foster. Thomas Harris, en général, met quelques autres méchants, mais qui sont bien, bien pâles et sans grand intérêt, qui permettent évidemment de donner du relief et donner une valeur à Hannibal Lecter. Et donc là encore, il reprend un petit peu sa recette avec un personnage que vous n'êtes pas prêt d'oublier, croyez-moi.
Faut nous en dire un petit peu plus, puisque vous nous avez mis l'eau à la bouche sur donc ce dénommé Hans-Peter Schneider.
Oui, dans Karimora, donc ce nouveau roman, il nous offre ce personnage assez étonnant. Je cite, un personnage blafard et dépourvu du moindre poil ou cheveux. Voilà pour la description physique, avec un nom donc à forte consonance germanique, dont on dit qu'il vient du Paraguay. Voilà, sans commentaire. D'accord. Alors sa spécialité, c'est faire du trafic de femmes, de prostituées. Qu'il amène dans les mines d'or clandestines de Colombie ou du Pérou. Le problème, celles-ci ont très souvent le sang contaminé par le mercure, donc comme lui a aussi une activité de trafic d'organes, c'est pas forcément extraordinaire, et donc il doit, encore une fois, opérer d'autres kidnappings. Et une fois qu'il a prélevé ses organes, car il faut optimiser, la marchandise en quelque sorte, il revend ses victimes à des clubs fétichistes. Bref, il a par ailleurs une machine à décomposer, je n'en dis pas plus, qui est essentielle dans le roman.
Pas de divulgachage.
Et ce qui est vraiment, très, très amusant dans le livre, si on aime évidemment l'humour noir, c'est justement d'avoir mis ce personnage haut en couleur dans une anecdote qui est bien réelle, puisque voilà, on retrouve ce Hans-Peter Schneider avec la volonté de découvrir le trésor de Pablo Escobar dans une villa à Miami, qui est pour le coup bien réelle. Mais face à lui, il y aura une jeune femme qui est une ancienne esclave des FARC, qui s'appelle Karimora et qui a plus d'un tour dans son sac. Bon, à vrai dire, c'est pas un immense roman. On a trouvé évidemment de bien meilleurs thrillers ces derniers mois. On n'est pas dans le niveau du Silence des Agneaux, mais malgré tout, il y a un plaisir incroyable grâce à ce talent de composition des personnages. Oui, ce Hans-Peter Schneider nous reste en mémoire, nous colle dans la tête, et quelque chose me dit que dans les prochains mois, les acteurs hollywoodiens vont se battre pour avoir ce rôle et peut-être, aller savoir, remporter un Oscar.
À surveiller. Donc merci beaucoup, Baptiste Ligier. Tout cela et bien plus encore est évidemment à retrouver dans les pages du magazine Lire. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous entamons aujourd'hui une semaine consacrée au sémiologue, écrivain et critique littéraire Roland Barthes, avec aujourd'hui donc Tiphaine Samoyau, autrice de sa biographie aux éditions du Seuil.
Après la guerre et après ma maladie, Nado, à qui j'avais montré par l'intermédiaire d'un ami commun, qui s'appelait Fournier, que j'aimais beaucoup et qui est mort récemment, Nado, à qui j'avais montré, disons, un texte très libre que j'avais écrit moi-même, sans aucune commande, en quelque sorte pour moi, sur précisément le problème du langage littéraire. Et ça a été au fond le seul texte que de ma vie j'ai écrit, si je puis dire, sans qu'il me soit commandé, car ensuite un engrenage s'est déclenché et j'ai toujours fait des textes, sinon sur commande, tout au moins sur demande. Et alors j'avais montré à Nado ce premier texte, et Nado, ça l'avait intéressé, et il m'avait demandé de faire la valeur d'un ou deux articles pour la page littéraire de Combat. Vous vous rappelez que Combat était un journal à ce moment-là intellectuellement très important, au lendemain de la Libération, et sa page littéraire avait véritablement une valeur, je dirais, supérieure au genre journalistique en général. Et alors c'est ainsi que j'ai donné là deux premiers textes qui ont été au fond l'ébauche ou l'embryon de ce qui est devenu plus tard le degré zéro de l'écriture.
D'un entretien avec Jean-José Marchand. Alors on peut pas dire, Tiphaine Samoyeau, que Barthes soit un autodidacte, mais il n'est pas non plus, du fait de sa maladie dont on parlait avant la chronique, tout à fait le produit du parcours classique à l'université. Est-ce que ça a pu créer, selon vous, une pensée un peu hors des sentiers battus, un peu originale ?
Oui, ça fait partie des éléments qui l'institue à part, mais avec les autres que l'on a mentionnés. Hein, c'est-à-dire qu'il faut pas en faire le seul élément. En effet, il s'est arrêté au niveau de la licence. Il n'a pas pu faire les concours de l'enseignement puisque à ce moment-là, ils étaient interdits aux tuberculeux. Donc, il pouvait même pas essayer de les passer. Et donc, il fallait qu'il fasse sa route autrement. Et alors, la référence à Nado ici, effectivement, il raconte comment Nado lui a donné la possibilité de faire un début en littérature, en critique, en lui offrant d'être publié dans le journal Combat. Mais c'est pas le seul élément biographique intéressant de cette histoire. C'est que lorsqu'il était à Lézin, c'est-à-dire dans son deuxième sanatorium en Suisse, il a rencontré un certain nombre de personnes qui venaient se faire soigner là des maladies qu'ils avaient attrapées dans un certain nombre de camps comme Buchenwald ou des camps de concentration. Et il s'est lié avec un certain nombre de personnes qui étaient trotskistes. Et lui, son engagement marxiste ne l'a jamais conduit du côté du communisme. C'est quelque chose d'intéressant. Donc il s'est senti aussi accueilli par un marxisme, disons, à part, alternatif, marginal lui aussi après la guerre, qui était le trotskisme. Et c'est par le biais de ces relations trotskistes qu'il s'était fait à Lézin qu'il a pu rencontrer Nado et d'autres trotskistes. Donc le début, c'est aussi l'inscription dans une hospitalité politique qui va être déterminante pour sa pensée et puis pour ses engagements ultérieurs.
Donc il est marxiste, il est aussi sartrien. Quel est alors, l'état de leur relation ?
Disons que c'est le moment où justement il s'agit de se séparer un petit peu de Sartre, hein, c'est-à-dire de s'éloigner un tout petit peu de Sartre, et notamment parce que Sartre, il est plus proche des communistes à ce moment-là. Et donc, ces textes, si Nado publie ces textes, qui deviendront plus tard le degré zéro de l'écriture avec un certain nombre de remaniements, c'est aussi parce qu'il y déploie une pensée de l'engagement qui répond autrement, qui répond à celle que Sartre déploie après la guerre dans les temps modernes, et dans qu'est-ce que la littérature.
Pourquoi refuse-t-il, Barthes, l'engagement de type sartrien ? Qu'est-ce qui le gêne profondément ?
C'est quelque chose qui va le gêner toute sa vie. On peut anticiper aussi sur ce qui se passera en 68. Barthes récuse toute forme d'engagement théâtralisé, autoproclamé. Il a beaucoup de mal avec toute la théâtralisation du rapport au pouvoir. Et donc, il ne se voit pas critiquer le pouvoir avec des instruments qui sont ceux du pouvoir. Et donc ça, c'est quelque chose qui va le travailler toute sa vie. C'est d'interroger comment est-ce qu'on peut être véritablement critique, comment est-ce qu'on peut changer la société, comment est-ce que l'on peut manifester des désaccords sans utiliser les instruments de ce que l'on dénonce. Et il va développer quelque chose de très particulier qui est une critique du langage lui-même. Et c'est par cette critique du langage, et c'est déjà ce qu'il dit dans le degré zéro de l'écriture, c'est par cette critique du langage, de la manière dont le langage enferme les identités, fige les rôles, finalement impose des formes d'autorité, que c'est en critiquant le langage de l'intérieur que l'on peut produire un véritable engagement intellectuel. Donc pour lui, l'engagement de Sartre, c'est un engagement qui est théâtral et surplombant, et qui au fond, c'est ce qu'il reprochera aussi à la plupart au militantisme de 1968, c'est d'être beaucoup trop de se manifester de manière beaucoup trop spectaculaire et autoritaire.
C'est pour ça qu'il ne va pas signer le manifeste des 121 sur la déclaration du droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. On va évidemment beaucoup lui reprocher ça, il sera pas compris non plus.
Oui, on a mal compris, on a pensé que Barthes se caractérisait par des formes, que son sa vie se caractérisait par des formes de désengagement. Moi, je crois que ça n'est pas ça, mais c'est des engagements parallèles. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il avait signé en fait une autre pétition, mais une pétition beaucoup moins spectaculaire, qu'il a signée avec d'autres intellectuels comme très importants, hein, comme Claude Lefort, Edgar Morin, etc. Contre contre la torture en Algérie et pour la fin des hostilités en Algérie. Mais en effet, le manifeste des 121, pour lui, c'était une déclaration trop déclarative, justement.
Alors revenons à ces années qui sont maintenant les années de l'entrée dans l'âge d'homme, les années de la trentaine. On n'aura pas le temps, évidemment, de suivre décennie par décennie toute la vie de Barthes. Mais à cette époque-là, il part avec sa mère et son petit frère en Roumanie pendant quelques mois. C'est important, cette période-là?
Ah oui, cette période donc de sortie du sanatorium, c'est une période où évidemment il cherche à gagner sa vie, et à gagner sa vie pour trois personnes, hein, parce que il a la charge de sa mère et de son frère. Et comme on l'a souligné, il n'a pas. Oui. Donc, comme on l'a souligné, il a pas fait beaucoup d'études. Donc, juste avant d'entrer au sanatorium, il avait fait une année d'enseignement, mais je le disais aussi, l'enseignement n'était plus ouvert donc aux tuberculeux, donc il avait plus tellement de choix, et donc il obtient des postes d'attaché, comme on peut obtenir ça quand on sort de ses études, d'attaché culturel dans des ambassades. Et oui. Et la Roumanie, c'est important parce que ça arrive, il y va au moment où la Roumanie devient communiste, hein, et où les liens diplomatiques entre la France et la Roumanie s'interrompent. Et donc il est là pour solder d'une certaine manière l'Institut français de Roumanie.
Et
donc,
vendre ou disperser les livres de la bibliothèque.
Et puis c'est une on sait les liens que la Roumanie a eu avec la France, les liens intellectuels, et donc il a des liens avec beaucoup de monde à ce moment-là. Donc cette année-là, plus après un poste aussi à l'étranger à Alexandrie, sont des années assez déterminantes pour les rencontres qu'il va faire et qui vont lui permettre après de s'introduire dans un certain nombre de milieux et d'asseoir sa position en tant que critique et intellectuel. Même si c'est un trajet qui prend beaucoup beaucoup de temps, c'est quand on regarde les années, on s'aperçoit que c'est pas si facile de s'imposer. C'est pas parce qu'on a publié deux articles dans Combat qu'on va vous en commander. Il faut trouver aussi à gagner sa vie avec la critique, ce qui est un peu plus évident à cette époque-là, et notamment il parviendra à le faire grâce à la critique théâtrale, un peu plus évident aujourd'hui, hein, où c'est très difficile de gagner sa vie comme critique, mais néanmoins il va devoir se battre beaucoup. Alors à Alexandrie, il y a une rencontre très importante, hein, qui va déterminer une inflexion de sa pensée. C'est la rencontre avec Grémas, qui va l'introduire vers une sorte de tournant linguistique de la réflexion.
Grémas, hein, qui sera théoricien du langage.
Oui, Grémas, théoricien du langage, qui lui fait lire un certain nombre de textes déterminants et qui sont déterminants pour l'inflexion sémiologique de son travail.
Alors comment ça va se passer ensuite à grands traits, l'entrée réellement dans la scène intellectuelle pour Roland Barthes, jusqu'à devenir dans les années 70 un auteur de best-seller avec Les fragments du discours amoureux?
Alors à grands traits, donc il y a le fait de côtoyer un certain nombre de personnalités dans ces espaces marginaux que sont les ambassades, les instituts français à l'étranger, les universités à l'étranger. bon, fait que on lui conseille de s'inscrire en thèse. Donc à son retour d'Alexandrie, ce qu'il va faire, donc il va inscrire successivement plusieurs thèses qu'il n'achèvera jamais. Et pendant ce temps-là, il obtient des postes d'assistant, un certain nombre de petits travaux. Il fait de la critique théâtrale, mais il commence à développer son œuvre. Alors il faudrait arriver à dire quelque chose du foisonnement des intérêts de Roland Barthes. C'est quelqu'un qui s'est pas fixé sur un objet, hein, et qui s'est intéressé finalement à tout ce qu'il pouvait rencontrer. Ce qu'il passionnait, c'est la force ou l'intensité du présent tel qu'elle lui arrivait à la pensée, aux yeux.
Ça, c'est un peu les mythologies. Peut-être.
Oui, c'est ça. On voit dans les mythologies que ce qui l'intéresse, c'est finalement toutes les choses les plus simples, les plus élémentaires, celles qui intéressent tout le monde. Donc, il n'a pas fait du tout que de la critique littéraire ou que de la critique des médias ou que de la critique de la photographie. Hein. Tout l'intéresse. Donc, c'est une pensée qui essaye de penser le présent, l'image. Et donc, il cherche aussi une méthode pour arriver à penser ensemble les formes artistiques, mais aussi les formes populaires, mais aussi la publicité, toutes sortes de choses. Donc c'est quelqu'un qui recherche à ce moment-là un système pour penser ensemble ces différences.
Et chaque livre creuse le suivant, chaque nouveau livre.
Il y a quand même une étape qui est les années 60, qu'on appelle les années structuralistes, qui correspondent aussi avec le travail sémiologique, qui correspondent aussi à son entrée institutionnelle à l'école pratique des hautes études et à sa sixième section, qui est de chercher un système pour penser tout cela. Et donc il y a cet espoir qui ne l'habite pas seul, hein, qui habite énormément de ses contemporains. L'espoir de trouver un système permettant de penser cette multiplicité des objets du monde. Donc il pense pouvoir la trouver par le structuralisme, donc il y a cet effort scientifique dont il s'écarte, mais là encore dont il n'est pas le seul à s'écarter, hein. C'est-à-dire que c'est ce désir de système ou cette utopie du système, elle va sombrer pour énormément de gens en même temps, hein, aussi bien pour Chomsky que pour d'autres.
Alors c'est dans les années 70 que va être pris aussi le tournant asiatique, mais ça n'est peut-être pas un tournant, c'est peut-être une déclinaison de ce système dont vous parliez à l'instant, Tiphaine Samoyo, l'univers du Japon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Empire des Signes, ce livre qui aussi fait partie des grands livres de Barthes?
Alors, il va avoir l'occasion en 67 et en 68, ou en 66, en 68, je ne sais plus exactement les dates, d'aller à deux reprises au Japon, hein, qui va être une véritable fascination. Mais une fascination qui n'est pas seulement liée au Japon, mais à ce qu'il y découvre, c'est-à-dire ce qu'il avait toujours cherché, à savoir une pensée du signe débarrassée du sens. J'ai dit tout à l'heure que c'est quelqu'un qui avait une grande hantise des figures d'autorité, et c'est quelqu'un qui a une hantise de l'autorité du langage. Et il va, au fond, faire un geste que Derrida ou d'autres penseurs vont faire en même temps par d'autres moyens, mais qu'il fait, lui, de manière très forte, qui va être de défaire les piliers de la rationalité autoritaire telle qu'elle lui a été enseignée et telle que l'institution la porte, qui sont le principe de non-contradiction, puisque lui, il n'hésite pas à se contredire et ça ne lui fait pas peur, et la question des oppositions ou des identités ou des essences. C'est-à-dire qu'il va défaire l'idée que le noir est opposé au blanc, la femme à l'homme, enfin toutes sortes de choses qui construisaient la rationalité occidentale. Et donc défaire le sens, défaire ce pilier de la rationalité qui est le sens, c'est arriver à penser un langage qui n'impose pas le sens de manière autoritaire. Et alors au Japon, comme il est fasciné par les signes, tous les signes qu'il voit, que ce soit les signes alimentaires, que ce soit les signes calligraphiques, que ce soit tout ce qu'il rencontre, lui apparaît comme un signe dépourvu de sens. Donc c'est complètement conjoncturel, c'est pas le vrai Japon, puisque le Japon, il porte évidemment avec lui du sens, c'est des signes qui portent du sens, mais comme lui ne les comprend pas, eh bien sa fascination vient de là, parce que accompli l'utopie qu'il était à la recherche de laquelle il était. Donc c'est assez conjoncturel et ça s'inscrit dans un itinéraire de pensée, dans un itinéraire pratique aussi, parce que pour lui, la littérature parvient aussi à défaire ses autorités.
Il aurait fallu parler de beaucoup d'autres choses, Tiphaine Samoyo, et notamment de son entrée au Collège de France, mais nous n'en aurons malheureusement pas le temps. Je rappelle que vous êtes traductrice critique littéraire, et puis pour les auditeurs qui souhaitent justement aller davantage plus profondément dans la biographie de Roland Barthes, je rappelle que votre livre, sa biographie donc, est paru aux éditions du Seuil en 2015. C'était La Compagnie des Auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Alexandre Dang. Demain, Éric Marty fera pour nous le parcours de l'œuvre de Barthes. Et puis, toute autre chose, je souhaiterais signaler la tenue lundi prochain au Théâtre de l'Odéon à Paris d'une soirée hommage à Amos Oz, avec de nombreuses lectures de textes et la présence de la fille de l'écrivain Fania Oz. C'est une soirée dont France Culture est partenaire. Tous les renseignements pour y assister sur le site de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Tout de suite, la poésie, c'est avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Ça tient à quoi? C'est le titre du livre que nous feuilletons cette semaine. Ça tient à quoi nous laisse sans voix? Ça, de la poésie? Et le texte, souvent lui-même, s'amuse à en jouer dans son dénuement, sa limpidité. Et cela va faire un poème, dit-il, dans le poème en train de se faire, sous la main experte, non, la main enchantée de François de Cornière. Ça tient à quoi? Est au castor astral. Si j'ai tout. Une seconde, je vérifie si j'ai tout. J'avais posé mon sac sur une banquette dans le hall de l'aéroport. Derrière la vitre, des gens faisaient des signes, articulaient des paroles muettes. Les enfants couraient en ouvrant grand leurs bras, des couples s'enlaçaient. Comme souvent à la sortie, il y avait des hommes qui tenaient des petites pancartes avec des noms écrits dessus. J'étais trop loin pour lire les noms, mais à l'instant j'avais pensé à ceux et celles que j'avais perdus ces dernières années, mais disparus. C'était peut-être les leurs de noms. Alors tu viens ? J'avais refermé mon sac. Dehors, il avait fallu courir jusqu'à l'arrêt de bus. Et puis tout était reparti. Homme à l'aspirateur. C'est un homme qui passe l'aspirateur, il est seul. Il a ouvert en grand la porte-fenêtre de la salle de séjour. Le soleil d'hiver entre presque à l'horizontale dans la maison. On a du mal à croire qu'on est en janvier, tant le ciel est bleu. L'homme est en t-shirt, il a mis la musique plus fort pendant qu'il passe l'aspirateur. On croit reconnaître du Chet Baker ou du Bill Evans, peut-être même les deux. Sur le tapis, l'ombre de l'homme et celle de l'aspirateur feraient une belle photo. L'homme ne sait pas pourquoi il éprouve cette sensation. Une tristesse pas triste. Mon voisin se demande si l'homme, de l'autre côté de la rue, n'a pas quelque chose de moi. Tiens, arrive Marie-Claire Bancard avec un de ses poèmes. Elle nous fait savoir qu'à la boîte partie en février, elle n'est pas morte. Terre énergumène est sortie en poésie Gallimard. La nuit, c'est une porte de la terre que parfois nous ouvrons. Les volcans arrondissent leurs yeux autour de nous, berçant notre solitude. Maintenant, les amis nous apparaissent avec un visage brouillé. La netteté va vers les ombres. Nous sommes en travail de nous, inconnus, sans ornement. De soleil à sommeil, une lucidité tombe au bas du monde. Ça tient à quoi, nous répond François de Cornière. Ça, un poème, elle qui était là devant sa maison, assise sur les marches, au soleil du matin, et le geste qu'elle a fait, un grand signe du bras dans ma direction, moi qui passais juste sur mon vélo surpris, je lui ai répondu, peut-être aussi d'un geste, je ne sais plus, tellement ça a passé vite, son mouvement, ses cheveux, une petite fille au sortir du sommeil, on aurait dit. Et ces mots pédalants que j'avais vite écrits pour me rappeler, ça, un poème pour elle qui était là, assise sur les marches avec son pull rayé.
Jacques Bonafé, dont les lectures sont à retrouver sur le site de France Culture et bien entendu à podcaster.